Louis Albrand a grandi dans une ferme à Saint-Crépin. Il connaît bien la vie des paysans des Hautes-Alpes dans les années 50 et a créé une collection d'objets qu'il a partagés sur les réseaux sociaux. Cette passion de l'histoire du terroir l'a conduit à étudier les archives du département et à retrouver la trace des femmes et des hommes qui ont marqué notre territoire à travers les âges. Il les évoque ici en descendant le cours de la Durance. Il nous présente chaque semaine la biographie de chaque personnage de ce territoire alpin sur Fréquence Mistral. Au micro de Laura Giraud.
Bonjour à tous et à toutes, nous retrouvons Louis Albrand. Bonjour Louis.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le bonheur de retrouver un chevalier, un pro-chevalier des Hautes-Alpes, un vaillant soldat dont le souvenir a hélas disparu dans le gouffre du temps qui efface tout. Mais pour moi, il brille comme une étoile et chaque fois que je passe devant, sous son château, à Barbin, Barbin est un petit hameau de Risoul, où la tour, bien sûr, s'éleva, mais aujourd'hui est couverte de lierre, et je pense à cet homme singulier, hors du commun, mais oublié. Je veux parler de Allard, ou selon les auteurs, selon les textes anciens, Auger de Barbin. Il est donc né à Risoul au XIe siècle. C'est un seigneur haut-alpin, ce sont ses chevaliers du Moyen-Âge. Il y avait d'ailleurs à l'époque aux alentours le château de Saint-Clément, dont la tour s'élève encore. Très belle la nuit d'ailleurs, avec les nouveaux éclairages. Il y avait le château de Saint-Crépin, dont la tour a été hélas détruite par Richelieu pendant les guerres de religion. Et puis il y avait le château de Barbin. Donc, il est né aux alentours de 1095. Il a très peu de textes. C'est pour ça que Radio Fréquence Mistral, qui s'intéresse au vrai patrimoine des Hautes-Alpes, vit un peu comme cela, inédite, qui n'a jamais été publié. Il a peu d'écrits sur... Et moi, j'ai dû aller jusqu'à Venise, Rome, Moyen-Orient, pour trouver des documents sur ce chevalier un peu mystérieux, mais qui a tellement marqué son époque, nous allons le voir. Donc, un beau jour de printemps, en 1099, il quitte ses montagnes pour partir vers l'Orient, lointain et compliqué. Il part à cheval, seul, avec son armure et son épée. Alors, pourquoi part-il? Pourquoi quitte-t-il sa famille, son château? Il laisse là sa femme, ses enfants. Il a cédé la gestion de ses terres au prince-archevêque d'Embrun. Comment est née cette vocation religieuse et militaire? Eh bien, je pense, moi c'est une hypothèse d'auteur, mais je pense que ce sont des Templiers qui l'ont encouragé à partir vers l'Orient, vers la Terre Sainte. N'oublions pas que lors de des batailles qu'il va conduire, parce qu'il va rejoindre d'autres chevaliers, il deviendra second grand maître de l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, vers 1162, date approximative. C'est un personnage remarquable, et dans l'histoire des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean, Vertot en fait, dans sa cinquième édition d'Amsterdam, en 1761, un grand éloge. C'est un fidèle compagnon d'armes de Raymond Dupuis, premier grand maître. Leur devise était « Nous sommes unis à la vie comme à la mort ». Voilà une belle devise que nous aimerions aujourd'hui retrouver souvent. Dans notre ouvrage de Georges Manara, écrit en 1846 par un Italien, « Storia dell'Ordine di Malte e degli grandi maestri e cavalieri », on décrit l'ancien seigneur de Barbin comme un grand guerrier, plein de passion, de fougue, mais aussi de compassion, un chrétien, et surtout fidèle en amitié, car on est fort à plusieurs, on est fort à deux, et lui, il va former un couple exceptionnel avec Raymond Dupuis, qui est un brillant chef de guerre, auteur de nombreuses règles de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Ils deviennent amis de Baudouin III, qui est devenu, lui, roi de Jérusalem à 13 ans. Donc, vous voyez, l'ordre de Jérusalem, c'est un peu comme l'ONU d'aujourd'hui. Ils font la paix entre les nations, ils fréquentent tous les rois de la terre. C'est donc pour le citoyen À l'époque, ce n'était pas un citoyen, c'était un chevalier, pour le brillant chevalier de Barbin, dans les Hautes-Alpes, commune de Risoul. C'est un grand personnage qui a marqué la géopolitique de son époque. Il obtint, grâce à ses grandes qualités militaires et humaines, le respect et l'affection du jeune roi, mais il restera toujours un conseiller honnête dans l'intérêt des peuples. Par exemple, quand il conteste le refus du roi de recevoir le représentant du pape, car il dit qu'il faut garder de bons rapports avec la papauté. Auger de Barbin choisit Rome plutôt qu'Avignon. Tout ordre religieux et militaire a son chef, appelé magister, il deviendra le magister, c'est-à-dire le patron, et il crée un ordre, les hospitaliers. C'est un ordre de piété, de protection des pèlerins. Les hospitaliers devront se transformer en militaires chevronnés, comme les templiers, un ordre militaire par excellence. Les règles de cet ordre sont courtes, il y en a 19, alors qu'on sait que celles des templiers en compteront 71. Et les chevaliers teutoniques allemands, 39. Pourquoi toute cette ardeur chez ce jeune homme? Peut-être parce que il y avait eu les angoisses dues au passage de l'an 1000, où on avait cru que la fin du monde était arrivée. Jérusalem était sous l'empire musulman depuis 638. Libérer la ville sainte était pour lui un devoir, et il était prêt à quitter les Hautes-Alpes, où il ne revint jamais, pour respecter sa parole. Ensuite, il y a la première croisade, organisée en 1096. Chevaliers et soldats pleins d'espoir y partent. Barbin les protège, bien que la déception fût énorme tant qu'il y eut de pertes en hommes et en matériel. Puis il y a eu trois croisades, puis la quatrième croisade, 1202-1204, avec l'ignoble, peu chrétien pillage de Constantinople de la part des Vénitiens, avec leur chef brigand, Enrico Dandolo. Dandolo, qui était le patron de Venise. Ils utilisèrent les croisés comme vulgaires mercenaires au service de leurs intérêts, hélas, politiques et commerciaux. J'ai eu beaucoup de mal à continuer mes recherches sur cet homme, ce cavalier, ce chrétien, appelé Auger de Barbin. En effet, tellement de temps s'est écoulé. Pour dresser un portrait complet, j'aurais aimé retrouver plus d'écrits pour en étudier sa psychologie. Mais c'est à Marseille, un paisible jour d'été, où j'ai décidé de continuer, car en quittant le fort Saint-Jean, j'étais dans la petite place dédiée aux hospitaliers de Saint-Jean, proche de la maison mère du port, d'où ils quittaient l'Europe pour l'Orient. Un petit signe peut-être. Je ne saurais jamais pourquoi j'ai été sensible à ce clin d'œil, et il m'arrive de dialoguer avec les disparus. Pour mieux connaître le territoire de Barbin, quittons la plaine de Fasi, après Mondauphin, située entre Mondauphin et Saint-Clément, entre Risoul et la Durance. Faisons une promenade d'une vingtaine de minutes. Le sentier est peu sauvage, rarement utilisé. La végétation luxuriante. Le chemin des chevaliers regorge de senteurs et de couleurs. Où se trouvait le bout du chemin? Un village rabougri, un plateau aride et sans vie, c'est tout ce qui reste de ce promontoire bizarre à la tête d'œuf qui domine la vallée de la Durance. Et là, on retrouve les dernières pierres, les dernières ruines du château de Barbin. Il y eut de discrètes fouilles archéologiques de la part d'habitants de la plaine, au nom très respecté, mais ils n'ont donné aucun résultat. Toutefois, sur une petite colline à l'entrée du village de Barbin, se trouve un bâtiment à l'allure singulière, récemment racheté, ancienne école, jadis chapelle, mais, d'après moi, était sans doute une tour de guet vers l'an 1000. À la fin du XIXe siècle, un villageois est parti pour Jérusalem pendant plusieurs mois. La clé de la chapelle a été confiée à une personne de confiance. Tout manque de respect ou d'oubli aurait pu transformer sans faille une malédiction pour les descendants. Les sombres jours d'hiver, sans rayon de soleil pendant 2 mois, ont contribué au départ physique et spirituel de beaucoup d'habitants de Barbin. En 1783, le curé historien Antoine Albert, dans son œuvre « Histoire géographique des Hautes-Alpes », naturelle, ecclésiastique et civile, du diocèse d'Embrun mentionne une dernière fois l'existence d'un important bâtiment sur le piton rocheux de Barbin. Je le cite, « Il reste encore des ruines d'un beau château sur une élévation au-dessus du petit hameau de Fazy. L'on croit qu'il avait été bâti par un grand maître de l'ordre des hospitaliers, aujourd'hui nommé Ordre de Malte, qui s'appelait Auger de Barbin, qui est mort en 1163. Il était de Risoul. » Dans un diplôme du roi Baudin III, roi de Jérusalem de 1131 à 1162, Auger est nommé, il est considéré comme détenteur du fief de Barbin. Voilà, on ne connaît pas la date de départ de France d'Auger de Barbin, ni l'année de passage des propriétaires à l'église au prince archevêque d'Embrun. Toutefois, une bulle du pape Eugène III précise avant 1153 que les biens d'Auger de Barbin étaient déjà propriété des princes archevêques d'Embrun. Donc, vous voyez, cette biographie comporte beaucoup d'hypothèses, mais l'énergique Auger de Barbin, qui a permis, qui a garanti dans les territoires du Moyen-Orient la présence de l'Église, qui a fait un ordre important pendant la deuxième croisade voulue par Coran II, le roi de France Henri VIII, il a probablement croisé le chemin d'Aliénor d'Aquitaine, qui a suivi en Terre Sainte son royal époux. Cette entreprise militaire s'est soldée, on le sait, par un désastre devant la ville de Damas, malgré les deux années passées en Palestine, 1147-1149. On sait qu'après cette croisade, le couple royal divorcera, Louis VII perdra ainsi le territoire d'Aquitaine, qui se rapprochera de l'Angleterre. Donc, notre héros a croisé la belle Aliénor, une des femmes les plus mystérieuses et énergiques et douées du Moyen-Âge. Devant les craques des chevaliers, on peut lire sur une pierre « Qu'abondance, sagesse, beauté te soient données, mais garde à toi si tu sombres dans l'orgueil qui ternit tout. » Il est encore bien possible que pendant ses voyages, ses pérégrinations incessantes au Auger de Barbin, soit allé jusqu'au krach des chevaliers de Syrie. Cette forteresse extraordinaire qui fut ensuite donnée aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem qu'il dirigeait. À l'époque de Barbin, le krach, qui veut dire forteresse en langue syriaque, a été donné à l'ordre par Raymond de Saint-Gilles, fondateur de Tripoli. Voilà donc une vie d'aventure, une vie de fidélité à Baudouin III, toujours à ses côtés, et Barbin va mourir comme il a vécu, courageusement, dans une bataille en 1162, où 63, mais ironie du sort, contre le frère du roi, Amalric, désireux de prendre la place de Baudouin. Quelques mois après la mort de Barbin, Baudouin III décède à Beyrouth. Le 10 février 1162, il n'a que 33 ans. Mais les drogues que son médecin personnel, le tripolitain Barak, lui a fournies ont certainement contribué à cette précoce disparition. Les populations musulmanes pleurent longtemps la mort du roi chrétien, grand ennemi. Qui était donc Barbin, un personnage à la fois mystérieux, terrible dans les batailles, chrétien dans ses décisions? Il était un homme exceptionnel, et à l'approche de ma retraite, quand pour égayer celle-ci, j'ai décidé d'approfondir ma connaissance des hauts alpins illustres, je peux constater que malgré la modestie de ses traces, il reste un des plus grands hauts alpins de l'histoire.
Merci beaucoup.